Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cham. Nous allons aujourd'hui parler de la radio et de la télévision au XXe siècle. En effet, la diffusion des informations a énormément évolué avec les avancées technologiques. Nous nous poserons donc la question:
comment au XXe siècle, la radio et l'audiovisuel permettent une diffusion plus rapide et à grande échelle de l'information? Nous verrons donc en premier l'invention de la radio et de l'audiovisuel, puis les radios libres et la privatisation des chaînes, enfin l'audiovisuel, mondialisation et concentration dans les années 1990. La radio est présentée en 1898 à Paris. Cette invention est l'héritière de la télégraphie sans fil. La radio, utilisant les ondes courtes, devient un médium à portée mondiale. L'audiovisuel commence en 1926 par l'invention du procédé de télévision. Celle-ci, à ses débuts, est peu propagée car plus contraignant, plus cher et moins flexible. La télévision s'est peu à peu propagée et s'est imposée comme un médium de masse permettant la diffusion rapide d'informations par le son et l'image.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'audiovisuel se popularise et les ventes explosent. Les Français sont impatients et se pressent devant les magasins. Cependant, le mécontentement du côté des journalistes et des auditeurs se fait sentir. En 1949, l'État français crée la RTF pour Radiodiffusion Télévision Française. L'État cherche alors à encadrer et accompagner l'audiovisuel. Son monopole sur la radio et la télévision est alors total. Les Français, eux, dénoncent la censure. Le 25 juillet 1964, l'ORTF est créée. ORTF signifie Office de Radio et Télévision Française. Elle détient alors 4 chaînes de radio et 2 chaînes de télévision. Mais l'État détient toujours le monopole des ondes et l'ORTF est placé sous sa tutelle. Lors d'un affrontement opposant les étudiants et les forces de l'ordre en mai 1968, la télévision reste muette ou presque. Autorisée à ne diffuser que quelques images sans son, les journalistes et autres personnels se révoltent. Ils se mettent en grève pour dénoncer le manque d'information du public et leurs conditions de travail. Ils seront pour un grand nombre licenciés. En 1969, un vent de liberté se fait sentir. Georges Pompidou, alors président de la République, entame une politique de libéralisation de l'audiovisuel. L'ORTF est alors très critiquée, notamment avec l'arrivée des publicités sur l'écran. Le gouvernement détient tout de même une forte emprise sur la radio et la télévision. C'est à ce moment-là que les radios libres ou radios pirates s'emparent des ondes et les auditeurs se précipitent. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing confie à son premier ministre Jacques Chirac la réforme de l'audiovisuel. L'ORTF, malgré les contestations et la suppression de plusieurs emplois, est démantelée au profit de 7 nouveaux organismes autonomes comme TF1 ou Radio France. Le monopole du gouvernement sur les ondes est cependant maintenu. En 1982, ce monopole de l'État est arrêté et les radios libres deviennent légales. Elles doivent cependant ne faire aucune publicité et les collectivités locales doivent intervenir sur le budget. Les radios libres sont alors définies par leur localité et leur indépendance de tout pouvoir financier. Cependant, en 1985, cette loi est revue et les radios libres ont enfin le droit de faire de la publicité.
Pour revenir sur la privatisation de TF1, c'est un tournant massif. En devenant privé, TF1 passe instantanément au même niveau que les grandes chaînes européennes, comme ITV en Grande-Bretagne. Elle dominait déjà les audiences et avait une stratégie très commerciale. L'exemple le plus flagrant, c'était le contrat avec Orangéna pour l'émission Cocorico Cowboy, qui avait obligé la haute autorité à rappeler les règles du service public. La privatisation met donc la France à jour avec le reste de l'Europe, en donnant au secteur privé un point énorme. Ensuite, arrive la mondialisation de l'information, révélée brutalement pendant la guerre du Golfe en 1991. CNN devient la première chaîne planétaire, reliée par 5 satellites, accessible partout, et capable de montrer une guerre en direct pour la première fois. Le citoyen téléspectateur vit le conflit quasiment en temps réel. CNN devient la chaîne de la guerre, un modèle d'info en continu qui influence le monde entier. Mais cette ouverture mondiale s'accompagne d'un autre phénomène, la concentration des médias. Dans les années 90, la télévision privée est dominée par quelques géants industriels comme Bouygues, Vivendi. Ils contrôlent aussi la presse, la radio, le cinéma et préfèrent les alliances aux rivalités. Des problèmes apparaissent, moins de pluralisme, risque de pression sur la politique et un pouvoir médiatique qui sert parfois leur autre activité économique. Les lois anti-concentration sont trop faibles et même les protections existantes sont remises en question.
Pour conclure, au XXe siècle, l'audiovisuel s'est développé et a permis une diffusion de l'information à grande échelle. Après sa création, la radio a évolué à multiples reprises, s'adaptant aux changements mondiaux. Après une lutte, les radios libres, alors hors la loi, deviennent légales et les voix se libèrent. Dans les années 90, elle devient un moyen de diffusion et l'information se mondialise, avec la concentration des médias et la privatisation des chaînes.